Chapitre 7. Il y avait, tous les soirs, chez la marquise, une de ces réunions intimes, appelées en Espagne « tertulias », où des amis venaient se joindre à la famille pour causer et se livrer à d'honnêtes distractions. Parmi ces innocents amusements, comptait au premier rang le jeu de loto, que la marquise avait adopté avec enthousiasme pour combattre les bruyants entraînements de Terpsichore. Les ternes lui semblaient bien préférables aux avant-deux, les ambes aux chassés croisés et les numéros aux pirouettes. Aux yeux de la marquise, le loto représentait la vertu sous forme de carton, le véritable alphabet de la décence. Cette modeste petite boîte en bois, venue de Nuremberg, exhalait un parfum allemand de simplicité et de décence qui avait captivé à toujours le cœur de la marquise. Aussi avait-elle déjoué toutes les conspirations ourdies par ses filles contre son favori, qui continuait à trôner chaque soir au salon. Rangée tout autour de la table, la joyeuse jeunesse, qui aurait certes préféré un tout autre exercice, se résignait à voir défiler devant elle, et le pain, et l'aïeul, et la patrouille, et les potences, etc. Enfin, tous les numéros, baptisés par Don Gallo, des noms les plus baroques, qu'il tirait gravement d'un sac vert, comme de l'urne du destin. Pendant ce temps, la marquise, l'esprit tranquille et le cœur en repos, se livrait aux douceurs de son trésillon. Sorte de jeu de cartes. L'assemblée était assez nombreuse ce soir-là, et chose inouïe, 9 heures étaient sonnées, et Don Galopando, l'exactitude en personne, n'était pas encore arrivée. Don Gallo était une nécessité dans la tertulia de la marquise. C'était le complément indispensable de la boîte du loto, car, comme nous venons de le dire, il avait la charge exclusive de tirer les numéros, charge qu'il remplissait avec une grâce, une complaisance, à nul autre pareille. Faute de son président, la table, où se décidait le sort des ambes et des ternes, restait triste et inanimée. La marquise jouait au trésil et, au grand étonnement de Don Sylvestre, faisait renonce sur renonce. Elle n'était visiblement pas à son jeu. D'une part, la pluie tombant à torrents l'inquiétait sur le sort de ses fleurs et de son mercure, et d'une autre, le marquis, qui avait promis de venir, ne paraissait pas. Tout cela la préoccupait vivement. Allegria trônait au milieu d'une foule de jeunes gens, parmi lesquels brillait par son esprit et sa figure notre ancienne connaissance, Paco Guzman. Quand il pleut le jour de Saint-Jean, pas de vin et pas de pain blanc, disait Allegria en entendant tomber la pluie. Quand il pleut le jour de Saint-Jean, pas ne vient novio dans l'an. Cette sentence partit comme une bombe de la robuste poitrine de Doña Eufrasia et vint tomber au milieu de cette joyeuse réunion à l'adresse particulière de Paco Guzman, auquel la colonelle gardait rancune depuis sa sortie contre la guerre de l'indépendance. Constancia, plus maussade que jamais, causait à l'écart avec une de ses amies et jetait de temps en temps un regard furtif du côté de Bruno de Vargas qui, sachant que le marquis devait venir, se tenait accoudé sur une table pour dissimuler sa jalousie et son dépit et feignait de lire un journal. Clemencia s'occupait des apprêts du loto, son jeu favori, dont elle attendait impatiemment le commencement. « Que peut-il être arrivé à notre illustre président ?» disait à Clemencia la rieuse Allegria. « Pourquoi ne vient-il pas ?»« Je l'ignore, » répondit simplement celle-ci. « Tu devrais le savoir. N'es-tu pas la confidente de Don Gallo ? Et il n'est pas certain que, sans ta permission, il n'oserait pas changer de perruque. « Peux-tu bien dire cela ?» exclama Clemencia confuse au milieu des rires provoqués par cette plaisanterie. « Je parie, cousin, » dit Allegria en se tournant vers Bruno, « que tu lises en ce moment le récit de quelque déplorable ou lamentable événement à en juger par ton air sombre et lugubre. »« Effectivement, » répondit Bruno sans lever les yeux, « je lisais la relation d'un naufrage. »« Et ce sont les péripéties de ce naufrage qui t'émeuvent à ce point ?» ajouta Allegria avec un sourire moqueur. « Oui, certes, et il y a bien de quoi. » « Bah, et pourquoi ?» insista fort peu délicatement la jeune fille. « J'ai toujours eu le pressentiment que je dois périr en mer. » Oh, alors ne vous embarquez jamais !» exclama Clémentia d'un accent qui partait du cœur. Superstitieux, avec des moustaches, n'as-tu pas honte, toi, un officier d'artillerie ?
Napoléon l'était bien, répliqua Bruno.
Il ne manquait plus que cela à cet ogre de Corse, fit entendre la grosse voix de la colonelle Aufrasia.
Avez-vous jamais vu Napoléon ? Lui demanda Allégrille.
Jamais. Il se serait bien gardé de m'approcher, jour de Dieu.
L'arrivée de Don Gallo mit fort heureusement un terme à l'explosion de colère de la belliqueuse Aufrasia.
Grand Dieu, quel déluge ! Exclama-t-il en entrant. Rien que pour traverser le ruisseau, j'ai eu de l'eau jusqu'aux genoux. Mais pour le seul plaisir de vous voir, charmante Allégrille, j'aurais traversé la mer Rouge.
Faites-nous grâce de vos compliments, Don Gallo, répliqua la jeune fille, et venez occuper votre poste. Clémentia vous a déjà réclamé plusieurs fois.
Clémentia eut beau se récrier, Don Gallo, dont le visage s'était épanoui de bonheur, vint prendre place à ses côtés.
Les rois catholiques sont placés sur leur trône, dit Allégrille d'un ton pompeusement comique, que leurs humbles sujets s'empressent de prendre place autour d'eux.
Constantia s'approcha de la table avec son amie et se mit en face de Bruno, qui tenait toujours son journal à la main.
« Tu n'es pas aimable, cousin, lui dit Allégrille. Laisse donc là l'espérance et viens jouer avec nous. »
« L'espérance, je la conserverai aussi longtemps que je pourrai, » répondit Bruno en regardant Constantia. Puis il s'assit à la table de jeu et demanda des cartons.
Le jeu durait depuis une demi-heure lorsque le marquis de Valdemar entra dans le salon. Bruno pâlit et cessa de s'occuper de son jeu. Constantia, au contraire, eut l'air d'y concentrer toute son attention, mais sa physionomie prit une apparence marquée de contrariété. Clémentia était tellement absorbée par son jeu qu'elle ne remarqua pas l'arrivée du marquis.
« Voulez-vous des cartons ?» demanda Allégrille à celui-ci.
« Merci, » répondit Valdemar, absorbé par la présence de Constantia.
« Que le fruit défendu est donc une belle chose, et combien gagnent les femmes à se faire désirer ! Elles ne devraient jamais oublier que plus le but est difficile à atteindre, plus l'homme fait d'efforts pour y arriver. » Et une chose que les femmes devaient avoir sans cesse présente à la mémoire, c'est que la manne, tombée incessamment du ciel, finit par dégoûter le peuple d'Israël.
Il est certain que cet air sombre et dédaigneux qu'affectait de montrer Constantia, loin de déplaire au marquis, la lui faisait paraître encore plus belle, et cependant, si par hasard elle levait ses grands yeux noirs de dessus ses cartons, sous ses longues paupières brillait un fier regard, fort peu encourageant pour le marquis. Le cœur de la jeune fille se brisait à la vue des tortures auxquelles Bruno était en proie. Elle en voulait au marquis d'en être la cause, même sans le savoir. Valdemar prit une chaise et vint s'asseoir derrière Constantia, qui ne bougea pas, mais sa voisine s'empressa de faire place au marquis pour qu'il s'approchât de la table.
« Êtes-vous heureuse au jeu ? » demanda-t-il à Constantia.
« Très malheureuse !» répondit laconiquement celle-ci.
« C'est bon signe. Malheureuse au jeu, heureuse en amour. N'est-ce pas un proverbe ?»«
J'espère bien ne pas le faire mentir. »«
Je craindrais plutôt que la mauvaise chance ne fût pour celui qui vous aimera. »«
Tant pis pour celui qui aurait ce mauvais goût, » répliqua-t-elle vivement.
« Sans exception aucune, » demanda le marquis, surpris de cette brusque réponse.
« Les lunettes de Mahomet !» dit à ce moment, d'une voix grave et sonore, Don Gallo en tirant le numéro 8.
Bruno, fit Constantia en fixant ses grands yeux noirs sur le pâle visage de son cousin, tu as deux fois le numéro 8 et tu ne le marques pas.
Que ces lunettes de Mahomet sont bien placées sur le nez de ma sœur, dit Allégrille en riant.
Marquis, ajouta-t-elle, voulez-vous des cartons ? Voilà deux fois que j'ai la bonté de vous en offrir.
Et voilà deux fois que je vous remercie de votre obligeance. Je n'aime pas le jeu.
Ni moi non plus, et le loto encore moins que tout autre. Ce Don Gallo va si vite qu'on ne peut le suivre, excepté ses affidés, Clémentia et compagne.
L'aïeul ! Fit retentir la voix de Don Gallo en tirant le numéro 90.
Car Don Gallo, fait depuis longtemps aux plaisanteries peu délicates dont il était l'objet, n'y faisait plus nulle attention et continuait, impassible, son immuable besogne.
« Je n'ai pas entendu !» exclama Allegria.
« Les deux potences !» cria Don Gallo en tirant le numéro 77.
« Au nom de Dieu, Don Gallo, n'allez qu'au trot !» fit Paco Guzman.
« Que signifient les deux potences ? Je vous avoue que ces métaphores numériques dépassent mon intelligence. »
« Les petits canards !» dit pour toute réponse Don Gallo en amenant le numéro 22.
« Don Gallo, vous parlez en énigmes pour favoriser vos adeptes. Vous avez juré ma ruine. Je proteste. »
Pendant ce temps, Valdemar disait à Constance
« Votre tante vous a-t-elle annoncé mon arrivée ? Vous a-t-elle parlé de mes espérances ?»«
Oui, » répondit la jeune fille sans lever les yeux de dessus son jeu.
« Et l'on a dû vous dire aussi que les miennes n'étaient pas les vôtres. »
« Que dis-tu de l'empressement du marquis auprès de Constance ?» demanda tout bas une jeune personne à sa voisine. « C'est bien surprenant, car enfin, Clémentia est plus belle, Allegria plus gracieuse que cette maussade Constance. »«
Bah !» répondit l'autre, « les femmes sont quelquefois comme le soleil qui devient plus piquant les jours orageux. »
« La patrouille !» fit entendre l'imperturbable Don Gallo en tirant le numéro 5.
« Ce numéro me fait interne, » dit un officier. « Ce bienheureux sac est une corne d'abondance. »«
33. Les deux bossus !» cria Don Gallo.
« Depuis une demi-heure, j'ai un quaterne, » dit Allegria, « et le 5 ne veut pas sortir. Ce traître de Don Gallo le fait exprès pour favoriser Clémentia. »
« Il est cruel, disait Valdemar à Constance, de m'avoir donné une espérance qui ne devait pas se réaliser.
Ma mère n'ignorait pas ma résolution et c'est sans me consulter qu'elle a écrit à ma tante.
Faut-il donc perdre tout espoir ?
Je suis trop franche pour vous en laisser aucun.
Je me retire, mademoiselle. Je renonce à mes plus chers désirs, avec d'autant plus de regret que si votre cruelle franchise m'afflige profondément, elle m'inspire d'autant plus d'estime pour votre caractère.
La potence des Catalans, fit entendre l'infatigable voix de Don Gallo en tirant le numéro 11.
Monsieur, exclama Paco Guzman, la potence est supprimée. Veuillez mettre vos paroles cabalistiques au niveau des progrès de la civilisation.
Kin ! Exclama Clémentia d'un ton joyeux en relevant son radieux visage, jusqu'alors penché sur ses cartons.
À voir cette charmante figure, le marquis de Valdemar, saisi d'admiration, demanda à sa voisine.
Quelle est cette jeune personne ?
Une orpheline, nièce de la marquise, qui l'a recueillie chez elle.
« C'est un ange de beauté, » dit le marquis.
« Oui, elle n'est pas mal. C'est une bonne et douce créature, bien inoffensive, une colombe envolée tout récemment de l'arche qu'on appelle le couvent. »
La partie de l'auto recommença, et après quelques jeux de mots plus ou moins grotesques, Don Gallo, en tirant le numéro 1, s'écria
« L'unique !»
« L'unique !» répéta Constantia en couvrant le numéro sur son carton et en jetant un long et furtif regard sur le désolé Bruno qui, par deux fois, pendant son colloque avec le marquis, avait fait mine de se lever pour partir et, par deux fois, avait maîtrisé son dépit et était resté cloué sur son siège, épuisant la coupe amère de la jalousie. La scène que nous venons d'esquisser est une image fidèle de la vie. À la surface, des jeux et une frivole gaieté, au fond, des passions et des douleurs cachées.